Aujourd'hui, à rencontre, un militaire pacifique, le commandant Guy Labouérie. Le commandant Guy Labouérie a passé la moitié de sa vie à bord de vaisseaux de guerre. Au moment de cette entrevue, il commandait depuis quelque temps le Montcalm qui veillait au large du Liban. Le commandant Labouérie est donc sans cesse devant un dilemme, à savoir si l'on peut tuer pour un motif quelconque, surtout pour établir la paix. Il se sent de plus, comme tant d'autres militaires, remis en question par les grands mouvements pacifistes. Or, cet officier de marine étonnant, qui est de plus professeur d'état-major à l'École supérieure de guerre navale, a publié aux éditions du Cerf en 1982 « Dieu de violence ou Dieu de tendresse », un ouvrage dans lequel il expose le fond de sa réflexion de chrétien sur le difficile problème de la guerre et de la paix. Le commandant Guy Labouérie est interviewé chez lui à Paris par Marcel Brisebois.
Guy Labouérie, est-ce que je peux me permettre de vous appeler ainsi ou s'il faut que je vous appelle...
Non, appelez-moi Guy, pas de problème.
Vous êtes militaire.
Militaire.
Vous êtes un haut gradé.
Non, pas un haut gradé, non, du tout. Non,
enfin, quand même, vous commandez un bateau.
Je commande un bâtiment, oui, des derniers nés de la marine française, le Montcalm.
Comment êtes-vous devenu militaire?
Oh, peut-être par tradition familiale, puisque je suis fils, petit-fils, arrière-petit-fils de militaires, militaires de l'armée de terre, tous. Peut-être parce que j'y ai découvert, et d'ailleurs toute ma carrière depuis n'a fait que me le confirmer, que dans ce milieu, on rencontre beaucoup de gens qui sont fondamentalement attachés aux problèmes des hommes, parce que par le commandement des hommes, on est en permanence affronté à tous les problèmes humains, et que c'est extrêmement attachant. La mer, eh bien, parce que j'ai toujours été séduit par la mer, ayant passé la plus grande partie de ma jeunesse au bord de la mer, peut-être par beaucoup de ces dimensions de réflexion, de méditation, d'attente, de liaison entre les différents mondes, etc.
Je n'ai pas l'occasion d'interviewer souvent des militaires. C'est même, je crois, la première fois que j'interviewe un militaire. Et j'aurais peut-être besoin d'exorciser certaines images. D'abord, évidemment, vous êtes... Vous êtes français, vous êtes européen, et peut-être que mes images sont américaines. Et la première image que j'ai, c'est l'image de ces militaires américains qui sont extrêmement puissants, qui ont un pouvoir politique extrêmement puissant. Est-ce qu'il en va ainsi? Est-ce que c'est normal qu'un militaire ait un pouvoir politique?
Non, je ne pense pas. Personnellement, je suis tout à fait opposé à ce qu'un militaire, de près ou de loin, ait un pouvoir politique. Ceci étant, au niveau le plus élevé d'une hiérarchie, il est bien certain qu'un officier général de haut rang est conseiller militaire d'un gouvernement et par conséquent puisse exercer une certaine influence sur ce gouvernement. Mais je pense qu'il est là en tant qu'expert militaire et pas du tout en tant qu'homme politique.
Oui, mais il n'en demeure pas moins qu'on a bien l'impression, et encore plus peut-être dans la conjoncture actuelle, que le gouvernement des pays se fond dans la perspective, tout au moins sur un fond de scène qui peut être la guerre.
Oui, c'est vrai, de même qu'il est vrai que sur les 150 pays que compte à peu près la communauté internationale, il y en a plus d'une centaine qui sont sous des dictatures militaires, et que ceci... bien sûr, n'est pas sans inquiéter les démocraties qui restent, mais je crois qu'il faut absolument que jamais le militaire ne prenne une part de pouvoir politique. Ça se termine toujours mal. J'en suis convaincu.
J'ai un autre problème, c'est le fait, encore plus gêné, je dirais, du fait que vous êtes chrétien. Qu'on soit militaire, ça peut toujours aller. On dit qu'il faut une armée, etc. Mais vous êtes chrétien et je ne peux pas oublier le cri de Paul VI aux Nations Unies il y a quelques années, jamais plus la guerre. Comment peut-on être chrétien et envisager une carrière militaire?
Je suis toujours surpris de voir que dans toutes ces grandes discussions à l'heure actuelle sur l'armement, le désarmement, la guerre, pas la guerre, le pacifisme, pas le pacifisme, à quel point l'on est incapable, moi tout le premier d'ailleurs, de faire le bon... que je crois indispensable et au-delà duquel on ne trouvera pas de réponse entre ce qui est des données personnelles et ce qui est des données collectives. Je n'arrive pas à imaginer qu'un homme politique qui est responsable d'une collectivité puisse avoir les mêmes réflexes qu'un individu qui peut très bien admettre de ne pas se défendre, qui peut très bien admettre de donner sa vie personnelle, il n'engage que lui, et un homme politique engage celle de tous les autres qui lui font confiance. Il n'y a donc pas de commune mesure entre les deux. Or, on passe son temps à vouloir plaquer sur ces affaires collectives, sur ces affaires d'une société, d'une nation, des réflexes qui sont des réflexes individuels ou des réflexes de personnes. Alors je crois que c'est là qu'il y a une des césures les plus complètes entre eux. Or le chrétien, moi je constate que pour le moment, car nous sommes loin d'avoir réalisé l'Église, même sur Terre, le chrétien est essentiellement de tentation personnelle, de présentation personnelle. C'est sa foi personnelle et il arrive très peu à vivre même simplement en communauté. Regardez simplement ce qu'est une paroisse. C'est un assemblage d'individus. Je n'ai pas encore rencontré une paroisse qui soit vraiment une communauté. Alors, face à la société, face à un État, face à une nation, le chrétien a des réflexes personnels, alors qu'il faudrait qu'il acquiert des réflexes collectifs, des réflexes communautaires. Et voilà, je crois, comment on peut être à la fois chrétien et militaire, mais ça ne va pas sans déchirement, soyez-en sûrs. Je crois que c'est une chose une question qu'il faut se reposer tous les matins. C'est voilà, en première approximation, oui, ce que je dirais.
Donc, militaire, vous acceptez de faire la guerre, vous acceptez éventuellement, il faut bien le dire, que des hommes soient tués à cause d'ordres que vous allez donner.
Oui, absolument. Et je crois que, vous savez, mon métier, moi je crois que j'essaie de le vivre, hein, ce que je dis toujours, comme une méditation sur la mort. La mort donnée et aussi la mort reçue, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Mais pas du tout dans un but négatif, mais au contraire pour privilégier tout ce qui est de la vie. Aussi bien la vie des gens qui sont sous mes ordres, que la vie des autres dans la mesure du possible, et que privilégier tout ce qui représente la vie et tout ce qui doit être défendu comme participant de la vie d'une société, participant de la vie de la nation à laquelle j'appartiens. Je dirais que j'ai un petit peu, au fond, l'attitude de Judith, vous savez, dans l'Ancien Testament, cette femme, on pourrait longuement parler de Judith parce que c'est un cas extrêmement intéressant, mais je crois que ça doit être un petit peu le modèle de l'officier chrétien. Il faut d'abord du discernement pour savoir quelle est la situation exacte d'Israël au moment où ça se passe. Cette femme qui est en principe consacrée à Dieu déjà, puisqu'elle ne s'est pas remariée, bon, un Dieu d'amour, et elle sent que si elle ne fait rien, Israël va être battu, non seulement Israël, mais même le temple. Et que finalement, elle sent très bien que dans cette guerre, c'est le Dieu d'Israël qu'on attaque. Elle ne sait pas quoi faire. Elle prie, et finalement, elle se résout à agir. Et c'est pas Dieu qui va agir, hein, c'est elle. Et Dieu ne dit pas un mot. Dieu ne dit pas un mot dans tout ce texte. C'est elle qui prend conscience du problème et elle se, finalement, moi je trouve, une grande humilité devant ce problème de la violence à laquelle elle est confrontée brutalement. Est-ce qu'il faut qu'elle fasse quelque chose alors qu'elle croit en un Dieu amour et elle va aller tuer quelqu'un? Mais alors là, il y a toute cette prière qui est merveilleuse sur laquelle, je crois, on peut longuement se pencher. Et puis après ça, dans cette même humilité, elle rejettera absolument toute récompense, tout signe de distinction, etc. Et par contre, troisième chose, il faut avoir du courage. Et lorsque l'on est à la tête d'un pays, ou à la tête d'une collectivité, ou à la tête d'un groupe de gens dont c'est le métier, bien, je crois qu'il ne faut surtout pas se retrancher derrière la lâcheté. La lâcheté, c'est ce qu'il y a de pire, c'est celle qui entraîne les pires malheurs. Donc je crois, voilà un petit peu l'attitude qu'on peut avoir. Le discernement d'abord, parce que tout n'est pas violence. Où est la violence? Où n'est pas la violence? Que faut-il faire? Que ne faut-il pas faire? Et puis beaucoup d'humilité, reconnaître qu'il y a des choses qui nous dépassent. La violence nous dépasse. Moi, je suis convaincu qu'il y a un mystère de la violence qui fait partie du mystère du mal et qu'il ne faut pas s'imaginer qu'on peut le résoudre avec une formule magique. C'est pas vrai.
Vous êtes donc loin de ces militaires du début du siècle encore qui faisait du militaire le modèle même du citoyen, si je comprends bien.
Oui, je crois pas. Le militaire, c'est un citoyen parmi d'autres. Il est aussi nécessaire dans un milieu que l'ingénieur, que l'électronicien, que l'homme politique. C'est une des composantes d'une société. C'est, il est là pour défendre un certain nombre de choses sur, non pas sur son initiative, ce qui avait été le cas bien souvent autrefois, mais sur les nécessités de cette société, et ce n'est pas lui qui en décide.
Mais joint pour vous un rôle qui est absolument nécessaire à la société.
Oui, à la condition de ne pas militariser une société, parce qu'il y a aussi des sociétés totalement militarisées, alors ça c'est affreux. On a vu ça avec le nazisme, on voit ça avec le communisme, on voit ça avec un certain nombre de ce que l'on appelle les dictatures de droite. À partir du moment où un pays se militarise, je crois que c'est une très très mauvaise chose.
Mais comment réagissez-vous à l'égard de ceux qui se disent non-violents et qui prennent des sociétés non-violentes?
Oui, mais je crois que c'est une erreur. Je crois que c'est une... Il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce qu'ils disent, mais je pense qu'ils oublient... C'est un refus d'une de nos dimensions. Je crois que nous avons tous une dimension de violence. Dire que nous sommes non-violents, à mon avis, ne tient pas debout. J'ai fait un petit essai là-dessus, sur la... justement, sur cette violence, parce que nous avons tous, de par notre naissance, la famille où nous sommes, le pays où nous sommes, etc., nous sommes lancés un petit peu au moment de notre naissance exactement comme une mise en satellisation. Nous sommes insérés sur une trajectoire avec toute une certaine donnée de violence, individuelle, familiale, sociale, internationale. Bon, cette violence, il faut faire avec. La nier, je ne pense pas que ça soit résoudre le problème. Je voudrais en prendre un tout petit exemple, si vous voulez. Vous avez peut-être suivi ça il y a quelques années. Il y avait dans les alentours de Paris, ici, pas très loin d'ici, une communauté non violente. De garçons et de filles de 25-30 ans, qui ont été attaqués un beau soir par un groupe de rockers. Je ne sais pas si ça s'appelait comme ça à l'époque. Des gens en moto qui sont venus... qui ont, sans aucune défense des garçons, parce que les garçons estimaient qu'il fallait être non-violent, paralyser les garçons, puis ont violé toutes les filles. Très bien. Ils sont revenus la semaine d'après, et à la troisième semaine, toute la communauté a explosé littéralement, parce que ces jeunes femmes ne pouvaient pas accepter, bien sûr, de vivre, sous prétexte de non-violence, une violence imposée par ailleurs de l'extérieur. Alors je crois que, qu'on essaie d'être le moins violent possible, qu'on essaie de lutter contre la violence sous toutes ses formes, oui, je crois qu'il ne faut pas nier la violence, elle existe, et par conséquent, il faut essayer de la contrôler, mais pas penser que l'on peut résister aux lance-flammes des nazis avec de la non-violence, en ne faisant rien. On a toujours mis en avant l'affaire de la Tchécoslovaquie, oui.
Et Gandhi. Et
ça a duré 8 jours. Ben Gandhi, c'était...
Gandhi et l'Inde.
Je crois que Gandhi a pris... c'était un très bon stratège, si je puis dire, ou un très bon tacticien. Il a pris exactement le moyen qu'il fallait face aux 60 000 soldats anglais, parce qu'on oublie toujours qu'il n'y avait que 60 000 militaires anglais aux Indes, donc sur ce pays de plus de 3 millions de kilomètres carrés, face à 600 millions d'hindous, c'était inutile de faire une guerre qui aurait servi à rien. Je crois que la non-violence était la meilleure. Enfin, ce qu'il a appliqué était le meilleur système, et que s'il avait eu affaire aux nazis ou à d'autres troupes, je pense que ça aurait été terminé en 8 jours. Donc il a choisi, et qu'il aurait choisi probablement un autre mode d'action. Il a choisi le bon mode d'action du moment. Autrement dit, la non-violence, oui, dans certains cas, mais comme panacée, ça, je ne crois pas.
Mais est-ce que vous êtes de ceux qui disent que pour obtenir la paix, il faut préparer la guerre?
C'est la grande formule. Est-ce qu'il faut préparer la guerre? Alors maintenant, moi, je dirais qu'il faut préparer la non-guerre. C'est bien pire que la guerre, vu les armes modernes. Car, par exemple, lorsque nous fabriquons des armes nucléaires, en principe, nous préparons la non-guerre.
Oui, précisément.
Pour obtenir la paix.
Vous savez très bien qu'actuellement, ce débat n'est plus simplement un débat politique, qui est devenu un débat qui trouve sa place maintenant parmi les croyants.
Absolument.
Faut-il permettre des essais de missiles dans tel ou tel pays? Peut-on accepter que nos pays s'arment? Et vous savez par exemple qu'en Angleterre, en Allemagne, un peu partout dans le monde, les chrétiens, soit à titre individuel, soit par leur épiscopat, prennent position. Comment vous réagissez devant ça, vous qui êtes militaire?
Moi, je crois qu'il faut que les épiscopats prennent position. Il faut que tous les chrétiens prennent position sur le phénomène de la paix et de la guerre. Ça me paraît absolument indispensable que tout le monde étudie ces problèmes-là. Ce qui me fait toujours un petit peu hésiter devant toutes ces prises de position, j'ai toutes les prises de position des évêques américains, là, quelque part, que je trouve très intéressantes. ils ne sont jamais complets. Ils ne sont jamais complets, d'où quelquefois un certain malaise devant beaucoup de ce qui est dit. D'abord, je prends la dernière lettre des Américains. On ne parle que d'armes nucléaires. Je trouve que c'est un peu court, parce que les armes nucléaires, après tout, ne sont que l'une, le plus spectaculaire, celle qui frappe le plus les Américains, puisque ce sont eux qui l'ont employée, les seuls, pour le moment. Mais ce n'est qu'une des possibilités. Il y a des possibilités bien plus terribles maintenant. Je n'entends rien sur les armes biologiques. Je n'entends rien, j'allais dire, sur les armes spirituelles. Mais c'est tout ce qui est le mensonge systématique,
la propagande,
les informations, propagande, etc. Je n'entends rien sur les armes conventionnelles. Or, on fait des armes absolument fantastiques. Et qu'allez voir à Beyrouth, les résultats de certaines de ces armes. On n'entend rien sur tout ça. Autrement dit, on a l'impression qu'on focalise, je crois que c'est d'ailleurs un petit peu inéluctable, parce que depuis 40 ans, le monde vit sous ce terme de l'arme nucléaire, mais il se prépare bien d'autres choses qui ne sont pas moins dangereuses que les armes nucléaires, qui peuvent même paralyser un peuple, après tout, par des incapacitants chimiques ou autres, simplement avec quelques centilitres de produits mis dans les grandes cuves de réserve des grandes villes en eau douce. Et on transformera tout un peuple en peuple de moutons, etc., etc. Donc, ça me paraît tout aussi important. Je dirais pas que j'ai presque l'impression d'un combat de retardement, mais un petit peu. Mmh. Et en même temps, je crois que c'est indispensable parce qu'enfin, il n'est pas admissible. Je crois qu'il n'est pas admissible. C'est une autre chose qui me frappe, c'est que toute cette discussion, c'est une bagarre entre occidentaux. Par occidentaux, j'entends les Amériques, l'Europe occidentale et l'URSS. C'est-à-dire les gens qui ont plein d'argent, les gens qui ont plein de moyens technologiques, qui ont des tas de facilités dans tous les domaines, qui ne pensent qu'à une chose, c'est à s'autodétruire, et pendant ce temps-là, il y a 4 milliards d'individus qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas d'école, qui ont faim dans le domaine spirituel, dans le domaine affectif, dans le domaine social, d'un tas de choses, et nous, les 800 millions de, j'allais dire, de privilégiés, nous sommes en train de nous envoyer à la figure des tas d'anathèmes, des tas de choses qui ne font que nous détruire. Et moi, je suis quand même un petit peu, pas sceptique, mais un petit peu au recul devant tout ça. Je crois que c'est indispensable, mais qu'on ne va pas au vrai fond des choses.
Mais justement, est-ce qu'on ne va pas renoncer à cette course aux armements, tout cet argent gaspillé pour des armes qui depuis des années sont inutiles de toute façon? Ça fait 40 ans qu'on perfectionne des armes qui finalement sont stockées, sont détruites, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux en finir avec cette course aux armements, à cette course militaire, et aider ces pays
J'en suis bien convaincu. Malheureusement, je crois que pour cesser la course aux armements, il faut que tout le monde la cesse. Sinon, il ne se passera pas grand-chose. Il y a quand même une chose qu'on oublie un peu trop souvent de rappeler, même si les Américains l'ont quand même rappelé, c'est qu'en face, qu'on le veuille ou pas, il y a un projet mondial. Et c'est le seul projet mondial qui existe, ce qui fait sa force, car les autres n'ont rien.
En face, vous voulez dire les sociétés marxistes, léninistes.
Elles ont un projet mondial, et ils estiment, probablement à raison, qu'elles ont le temps devant elles, qu'elles mettront le temps qu'il faudra, que ce projet mondial, il se réalisera petit à petit, soit par la guerre, soit de préférence par la paralysie petit à petit des autres, par leur... la façon de les faire capituler sans guerre, s'il le faut. Mais devant ce projet mondial, qui est un projet conquérant, qu'on le veuille ou pas, même si par moments il se retire par d'autres, je crois que nous n'avons pas... Il est très difficile de prendre une politique de désarmement systématique, a priori. Je pense que l'on peut faire, dans un certain nombre de domaines, beaucoup de choses, parce que je pense que... Enfin, je ne voudrais pas m'avancer parce que je n'en ai pas les compétences, mais je pense que dans beaucoup de domaines, revenons à l'histoire simplement et l'élection de M. Kennedy. Il faut quand même, je crois que maintenant tout le monde est à peu près d'accord pour dire que M. Kennedy, en mentant sciemment, a relancé la course aux armements. Car le fameux missile GEP de Kennedy n'existait pas. Les Américains avaient de très loin la supériorité sur les Soviétiques. Mais en relançant cette fameuse querelle sur la nécessité de fabriquer 1000 missiles intercontinentaux, on a relancé une course aux armements absolument gigantesque. C'est pour ça que je crois que, ce que je disais tout à l'heure, la première qualité dans ces affaires de violence, c'est le discernement.
Mais pas facile.
C'est très difficile.
Alors quels critères a-t-on? Quels critères dispose-t-on pour opérer ce discernement?
Je crois que le premier critère, c'est de ne... Je vais dire quelque chose d'affreux, c'est de ne pas faire confiance aux techniciens du désarmement. Je crois que c'est aux hommes politiques à jouer et à prendre leurs responsabilités. C'est... Je crois qu'il faut... Vous savez,
les affaires militaires sont trop sérieuses pour être laissées aux mains des seuls militaires, c'est ça que vous pouvez me dire?
Ah oui, non, je pense que de toute façon, tout est trop sérieux. Dans une collectivité, on ne peut laisser... Dans une collectivité démocratique, on ne peut laisser les choses que dans les mains des hommes politiques, c'est-à-dire de ceux qui sont élus pour ça. Et tous les autres sont les serviteurs de cela. Moi, ça, pour moi, c'est sans ambiguïté aucune. Mais seuls ont le pouvoir ceux qui sont élus. Et ceux qui ne sont pas élus ne sont que les serviteurs.
Mais qui souvent, malheureusement, a souvent l'impression que ceux qui sont élus sont manœuvrés.
Alors voilà, c'est tout le problème. Mais oui, mais c'est ça la vie de l'homme, hein, je crois. Alors, je n'appellerai pas ça un jeu, parce que c'est bien plus important et bien plus fondamental qu'un jeu, mais tout le monde appelle ça les jeux de la politique, les jeux de ceci, les jeux de la guerre, les jeux de la stratégie. Ce qui est terrible, c'est que c'est des hommes de chair et de sang qui sont derrière, c'est pas des jeux, c'est quelque chose de très grave, de très important, mais c'est à l'homme politique à en décider, alors c'est à lui, à son tour, être de conseil, être capable de discerner ce qui est vrai, ce qui est moins vrai, ce qui est vraisemblable, ce qui est probablement faux, ce par quoi on essaie de le manœuvrer pour obtenir de meilleurs crédits. Vous savez, je crois que dans un État, toutes les administrations, qu'elles soient civiles ou militaires, à la tête, partout il y a des gens honnêtes, dans tous les pays. Ce qu'ils veulent, c'est le bien de la collectivité. Et pour ça, ils estiment, à juste titre, souvent, qu'il faudrait mettre plus d'argent ici, il faudrait mieux en mettre là. On a peut-être tendance à grossir un petit peu l'adversaire, parce que, mon Dieu, c'est... Et bien c'est comme ça que... Alors il faut que les hommes politiques... Alors moi je dirais, suivez mon avis sur tous ces sujets, c'est que nous n'avons pas, je crois dans aucun pays du monde occidental, nous n'avons pas les hommes politiques que nous devrions avoir. Je pense que c'est très difficile d'être un homme politique. Et je pense que nous n'avons pas les hommes politiques que nous devrions avoir. Alors pour quelle raison ça? Je crois que les nations occidentales sont devenues des constructions extrêmement difficiles, extrêmement complexes, extrêmement fragiles. Et je ne sais pas si la formation que nous donnons dans nos écoles, dans une université, sur le tas, permet de résoudre les problèmes comme il le faudrait.
Oui.
Ceci étant, ça fait 40 ans que nous sommes en paix, malgré tout.
Jamais ça a été aussi long.
Jamais ça n'a été aussi long.
Guy Laboué, on a parlé beaucoup de l'homme de guerre, mais l'homme de guerre, c'est un homme aussi. Et un homme, je voudrais voir rapidement avec vous trois problèmes importants, mais rapidement. Commander des hommes, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que ça exige de vous?
Être excessivement exigeant envers soi, d'abord. Je crois que... Et envers eux également, surtout quand on commande des militaires. Je vous l'ai dit, je crois que ce métier, on le vit comme une méditation sur la mort. Et en particulier la mort reçue, c'est-à-dire la sienne et celle des autres. Ceux qui sont sous vos ordres. Et par conséquent, ce qu'il faut éviter, c'est cette mort. Donc, toutes les exigences qu'on peut avoir vis-à-vis d'eux, c'est dans un seul but, c'est de verser le minimum de sang. Ça, je crois que c'est fondamental. Alors, dans la vie de tous les jours, hein, sur un bâtiment de guerre où vous avez des munitions partout, vous avez du kérosène pour les hélicoptères, vous avez... De l'essence pour les moteurs portatifs, où vous avez du gazole pour les moteurs, bon, c'est un véritable danger. Par exemple, du point de vue de la sécurité, il y a donc des règles extrêmement strictes. Eh bien, il faut être très exigeant vis-à-vis de son personnel pour qu'il respecte ces règles, même lorsqu'il trouve que c'est trop lourd, mais c'est simplement pour protéger sa vie. Donc, exigence, je crois. Et puis, ouverture à tout le... Écoute. Et alors ça, c'est le gros avantage, voyez-vous, de la vie d'un bâtiment, c'est que comme on est tous les uns sur les autres, il y a des moments où on est obligé de donner des ordres bien précis, des moments où tout le monde suit ce que dit le commandant, parce que c'est soit une tempête, il fait très mauvais temps, soit c'est un moment de danger, on sent très bien qu'à ce moment-là, il n'y a plus aucune... Tout le monde écoute l'ordre qui tombe et essaye de faire pour le mieux. Et puis en dehors de ça, il y a des tas de périodes où on peut vivre en se rencontrant, en se parlant, où les grades, les différences sociales, tout ça n'a pas beaucoup d'importance sur un bâtiment à la mer quand on est loin. Et il est extrêmement facile finalement d'être à l'écoute les uns des autres. On a toujours beaucoup à apprendre les uns des autres, aussi bien le commandant du matelot que le matelot de son capitaine, tout ce qu'on voudra. Hein. Ça, je crois que c'est... Et commander des hommes, je crois que c'est ça, c'est être assez exigeant. Je crois que c'est être très exigeant, mais en commençant par soi. Je crois que si les officiers sont pas exigeants, ils commanderont jamais rien.
Le commandant de la Bouérie n'est pas un célibataire qui est allé vivre dans un monastère qui serait un bateau. C'est un homme marié, il a des enfants, il est même grand-père. Qu'est-ce que ça veut dire, cette vie familiale pour...
Eh bien, ça veut dire que si on veut l'amener bien, il faut une femme au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Parce que, vous savez, j'ai beaucoup d'admiration pour les femmes de marins. Beaucoup. Parce que nous leur faisons une vie très difficile. Vous voyez, nous sommes mariés depuis 27 ans. Sur 27 ans, nous avons passé 13 ans et demi à peu près ensemble. Donc un jour sur deux. Entre les moments où on est en mer, soit loin, jusqu'à 15 mois de séparation, soit les jours de garde lorsqu'on est au mouillage, soit quelquefois même des séparations imposées parce que les enfants grandissent, qu'il y a des études, etc. Donc s'il n'y a pas une femme capable de tout faire, de tout prendre en main depuis la réparation d'un fer à repasser jusqu'à l'inscription dans les écoles, eh bien, on aurait beaucoup de mal à faire le métier de marin. Donc la vie familiale, si vous voulez, je crois que c'est d'abord une confiance totale avec sa femme. Oui, je crois que c'est d'abord ça. Et puis c'est une femme qui est capable de faire vivre le père en permanence lorsque vous n'êtes pas là. Et où lorsque vous revenez, vous vous sentiez inséré dans votre famille. Même si vous revenez, moi ça m'est arrivé plusieurs fois de revenir après plusieurs mois. Et finalement, vous savez, c'est assez fantastique. Ben, en dehors de la timidité première, du premier contact avec les enfants, surtout au moment de l'adolescence, ben, on s'aperçoit que rien n'a changé. On est exactement au même niveau de préoccupation. Alors ça, moi j'admire beaucoup les femmes de marins qui sont capables de faire ça.
Guy Labouérie, je vous remercie.
Rappelons que le commandant Labouérie, qui est marié et même grand-père, a publié « Dieu de violence ou Dieu de tendresse » aux éditions du Cerf. Cet officier de marine a écrit ce livre à la suite de récentes études de théologie et de Bible qu'il a complétées à Paris avec sa femme.
Cette rencontre sera diffusée en reprise dimanche à 13h, maritime 14h, et la seconde partie de l'entretien sera présentée mardi prochain à la même heure.